IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.0, web radio 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Nicolas à la technique. Bonjour Nicolas. Alors beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec moi, c'est rare d'être aussi nombreux. En tout cas, merci à vous tous d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Aujourd'hui, mardi 12 mai 2026, c'est la ville d'Argenteuil qui est à l'honneur. Une émission consacrée à son dynamisme économique, son attractivité territoriale et bien évidemment aux entreprises qui participent concrètement à son développement, dont celles issues du secteur agroalimentaire qui participent activement au développement local à travers leurs activités et leurs savoir-faire. Car Argenteuil poursuit sa transformation avec de nombreux projets urbains, économiques et d'aménagement. Une évolution qui intéresse naturellement les entrepreneurs, les investisseurs, les acteurs du commerce et bien sûr les habitantes et habitants de cette ville du Val-d'Oise. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Camille Jiquel, adjointe au maire déléguée à l'urbanisme, l'aménagement et aux projets urbains, consultante en stratégie et communication, élue depuis peu conseillère métropolitaine déléguée de la métropole du Grand Paris. Bonjour Camille.
Bonjour Jacqueline.
À vos côtés, Jordi Liu, directeur UO France, distributeur de bubble tea, thé au lait haut de gamme, spécialisé dans le thé snacking. Bonjour Jordi.
Bonjour Jacqueline, merci pour votre accueil.
Je vous en prie. À vos côtés, Charles-Henri Gilbert, fondateur et dirigeant de ISCO Iceland, entreprise spécialisée dans la maintenance et l'entretien de matériel de grande cuisine. Bonjour Charles-Henri.
Bonjour Jacqueline.
Et enfin, Jean-Luc Mabou, entreprise ABMC, spécialisée dans l'assurance des entreprises et des professionnels, et président de l'ADPAVAD, ce qui va retenir notre attention ce matin. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jacqueline.
Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio. Et parmi les présents dans le studio, je salue Théo Godard qui a accompagné tout ce monde-là et Naé qui est notre stagiaire pour plusieurs semaines. Bonjour Naé, bonjour Théo.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Je vous propose qu'on fasse un tour de table pour mieux vous présenter. Donc Camille, déjà Camille, on se connaît depuis
quelques années maintenant.
Un ou deux ans. Je voulais vous adresser mes félicitations en tant que représentante de l'équipe municipale pour votre victoire aux dernières élections. De toute évidence, c'est une confiance renouvelée qui traduit les attentes des Argenteuillais pour poursuivre tous les projets engagés sur le territoire.
Oui, une ville, c'est un petit peu comme une entreprise. On a besoin de stabilité, on a besoin de se projeter, on a besoin de confiance. C'est pas un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui, on le voit bien, l'image d'Argenteuil a changé, les grands projets sont sur les rails. Et aujourd'hui, on s'inscrit pleinement dans cette continuité, cette stabilité avec Georges Motron et toute l'équipe municipale.
Oui, en tout cas, félicitations.
Merci.
On était ravis que vous soyez réélu.
Merci pour l'équipe.
Pouvez-vous présenter vos délégations et puis votre vision du développement d'Argenteuil, Camille ?
Alors, je suis depuis plus de 6 ans maintenant, puisque j'occupe la même délégation que précédemment à Argenteuil, donc en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et des grands projets, notamment toutes les parties de développement économique, puisque ça concerne les grands projets de développement du quartier Porte Saint-Germain, Berge de Seine, le pôle d'activité de la gare et aussi le pôle d'activité du Val d'Argent, où vous êtes Jordi. Et donc aujourd'hui, on a à travers cette vision portée par Georges Motron, autant sur le renouvellement urbain que la reconquête des berges de Seine avec la Seine pour horizon, que le nouveau développement de la plaine d'Argenteuil, donc 120 hectares de plaine agricole, un tissu très hétérogène à Argenteuil qui fait toute la richesse de la ville. Et donc on travaille à cette cohésion, cette cohérence qui fait aussi toute l'essence du vivre ensemble aujourd'hui en 2026 et pour les années à venir dans une ville comme Argenteuil. Je suis également en charge du développement économique en tant que vice-présidente du territoire Boucle Nord de Seine. Donc le territoire Boucle Nord de Seine, c'est une intercommunalité à cheval sur le 95 et le 92 qui rassemble les villes de Clichy, Danières, Colombes, Bois-Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil. C'est un bassin d'emploi de 450 000 habitants qui a une grande richesse entrepreneuriale et économique également, puisqu'il y a plus de 800 hectares de fonciers productifs sur le territoire, dont le port de Gennevilliers, qui est une grande plateforme logistique francilienne et française, qui fait 400 hectares à lui tout seul. De grands enjeux de renouvellement aussi, et puis d'industrialisation et de réindustrialisation, puisque pendant longtemps, on a tous les territoires en première, deuxième couronne, parfois laissés un peu partir par opportunisme les fonciers productifs au profit de la production de logements. Aujourd'hui, on a vraiment un enjeu de rééquilibrage pour faire vivre à la fois une ville productive et une ville à vivre et rapprocher emploi, logement et toutes les activités et équipements alentour. Et puis, nouvellement, élue conseillère déléguée auprès de Patrick Ollier à la métropole du Grand Paris. Donc là, c'est aussi une nouvelle histoire qui va s'écrire et en droite cohérence avec les deux précédents mandats.
Merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions. On reviendra sur plus en détail sur certains points. Jordi You, donc de UO France, je vous laisse vous présenter.
Oui, bien sûr. Alors, on est UO France, on est une filiale d'une entreprise qui est basée à Guangzhou, en Chine, à Canton, qui existe depuis 16 ans, qui est spécialisée dans l'industrie du tea-snacking. Ce qu'on appelle tea-snacking, nous, c'est tout ce qui est bubble tea, coffee shop. Et aujourd'hui, en fait, on fait le pont entre les grandes tendances d'Asie sur les boissons tendances et on les apporte sur le marché français et européen en général. Alors, pourquoi on s'est lancé là-dedans ? C'est une très jeune entreprise, ça fait un an et demi qu'on existe. C'est une toute nouvelle activité, on s'est lancé là-dedans parce qu'on a vu la grande croissance de ce segment-là. On a plus de 1500 boutiques indépendantes en France. Sans compter toute la partie restaurateurs et fast-food qui ajoutent ce type de boisson dans leur menu. Et cette croissance, elle est estimée à continuer à croître sur les 3 prochaines années, au moins, sur le même rythme.
Vous avez un objectif de
On a un objectif sur 3 ans.
La même croissance exponentielle.
Vous voulez dire la croissance de notre entreprise
par rapport à 1500 boutiques.
Par rapport à 1500 boutiques. En termes de boutiques indépendantes, on est sur 15 à 20% de croissance annuelle sur les 3 à 5 prochaines années. Mais si on ajoute toute la partie restauration et fast-food qui ajoute ce type de boisson, je pense qu'on est largement plus.
Plus, oui. Ouais. Très bien.
Donc voilà sur la partie croissance. Et puis, notre entreprise, elle est basée sur 3 segments principaux. Une partie où on fournit tout ce qui est ingrédients pour la préparation des boissons, une partie équipement et packaging, et finalement une partie formation. Donc, tous les entrepreneurs qui souhaiteraient ouvrir ou ajouter ce type de boisson dans leur menu nous contactent pour être formés à ouvrir leur commerce.
Très bien. Voilà. Merci Jordi You de UO France. Charles-Henri Gilbert, c'est votre tour pour nous présenter un peu mieux votre entreprise.
Alors, j'ai repris, je n'ai pas fondé ISCO.
Ah, pardon.
Puisque ça a été fondé il y a 47 ans. Sinon, j'aurais été un peu plus âgé. Ça a été fondé par Bernard Schmitt et ensuite ça a été repris par son fils pendant 30 ans, avec qui on a fait une transmission d'entreprise. J'aime bien ce terme-là parce que c'est du reprenariat, mais il y a tout un projet de part et d'autre entre celui qui cède son entreprise avec le plus grand respect des salariés et puis celui qui la reprend et qui doit apporter un projet et un renouveau. ISCO, c'est un pur payeur de la maintenance de grande cuisine. Alors j'avais deux sociétés, ISCO Iceland, l'une faisait le chaud, l'autre faisait le froid. Donc qu'est-ce que ça veut dire un pur payeur de la maintenance de grande cuisine ? C'est que Notre rôle, c'est d'entretenir et de maintenir en bon état les cuisines professionnelles. Et alors, en Ile-de-France, pour ce qui concerne ISCO, dans l'univers de restaurants entreprises, inter-entreprises, un peu d'enseignement. Et c'est d'ailleurs une des voies de diversification que j'entrevois. C'est un projet qui est fantastique, hein. J'ai travaillé pendant 26 ans dans l'univers du service B2B, et reprendre une société, c'est pour les 15 prochaines années, c'est un projet qui me motive au quotidien, qui me donne du sens auprès de mes collaborateurs et auprès de mes clients. On a la chance d'avoir un segment d'activité qui n'est pas en souffrance, qui est justement un peu en essor, comme d'autres maintenances industrielles. On est à la recherche de jeunes qui veulent se lancer dans ce métier qui est proche d'un métier d'artisanat, des métiers manuels, des métiers techniques, et en même temps des métiers de service. Et au quotidien, je suis très content d'accueillir des stagiaires, même des personnes en reconversion. Encore une fois, dernièrement, on a un ancien plombier qui se reconvertit à notre métier, c'est fantastique. Donc voilà un peu le projet. On est basé à Argenteuil depuis maintenant 11 ans, dans le 95, depuis quasiment le début de la création de cette société. Et donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots.
Très bien. Mais on reviendra sur la... Vous nous expliquerez exactement votre métier et puis les besoins auxquels vous répondez aujourd'hui. Merci Charles-Henri Gilbert. Jean-Luc Mabou, c'est votre tour de nous présenter votre activité, mais aussi votre raison la raison de votre présence aujourd'hui en tant que président de l'ADPAVAB.
Alors, moi, je suis agence générale d'assurance pour le compte de Generali. Je suis spécialisé dans tout ce qui est risque entreprise, tout ce qui est prévention des risques. Et je suis à Argenteuil, une des entreprises d'Argenteuil. Et en parallèle, je suis président de l'association ADPAVAB, qui est toujours très difficile à prononcer,
oui.
qui est l'association des chefs d'entreprise du Sud-Valois, qui a été créée maintenant il y a 20 ans à Argenteuil, sur l'idée de Georges Motron et de Philippe Écran, qui est l'ancien président de l'ADPAVAB et qui est vice-président de la CCI du Valois. Donc une association qui regroupe 70 entrepreneurs sur la région d'Argenteuil, mais au-delà, parce que les adhérents c'est 50% Argenteuil et 50% en dehors d'Argenteuil. Tout métier, il y a de l'industrie, du service, dans tous les domaines. Ça représente bien la ville d'Argenteuil. Voilà. Et c'est surtout aussi l'organisateur du salon Effervescence qui a lieu la semaine prochaine.
Ça s'approche. Hein.
Ça s'approche, c'est le 19, oui.
Le 19, hein. Oui. Oui, donc l'ADPAVAB qui est vraiment accompagnante et valorisante du tissu économique local, on peut le dire, je pense.
Hein. Il y a un rapport très important avec la mairie d'Argenteuil et ses élus depuis le début, bien sûr. Et chaque événement, il y a une présence des élus, Camille, souvent, très souvent. Et on a des rapports très importants dans la programmation des événements sur la ville, notamment avec Théo, qui est présent ici, sur lesquels on travaille sur les thématiques, et à ce qu'il y ait le maximum de présence, notamment des entreprises. Et c'est vrai que l'association répond souvent très présent par rapport à ces événements, et on revient souvent en force. Voilà.
Oui, merci Jean-Luc.
Il y a une grosse solidarité entre nous, et c'est vrai qu'on est très présents sur les événements. Et
voilà. C'est vrai, on vous voit souvent sur Argenteuil. Et moi, je voudrais ajouter que cerise sur le gâteau, l'ADPAVAB est partenaire d'IDFM Radio,
mais
tout comme la mairie d'Argenteuil. Donc voilà, nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés ce matin. Allez, on fait une pause. On va écouter Renaud et son titre, Docteur Renaud, Mister Renard.
Comme il y a eu 15 bourgs et 15 parts, il y a le Renaud et le Renard. Le Renaud ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche. Tout beau, moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renaud, Mister Renard.
Renard est un sacré soifard. Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud s'efforce, c'est son boulot, d'écrire de jolies histoires pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le renard n'a que les gros mots. La parano et le cafard lui inspirent que des idées noires. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefout de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud a choisi la guitare et la poésie et les mots comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux. Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux, se moque du tiers comme Lucard, des engagements les plus beaux. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud mérite les bravos, car en amour, et c'est sa gloire, il est tendre comme un agneau, pour une seule et même histoire. Renard se frotte à toutes les peaux, n'a que des aventures d'un soir, avec des canons, des cajots, Renard serait-il un brin d'islam. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, c'est à cause du désespoir qui tombe à 50 ans bientôt que le renard, tôt ou tard, prendra le dessus sur Renaud. Aujourd'hui son amour se barre, son bel amour, sa domino. Elle quitte le vilain renard, mais aimera toujours Renaud.
IDFM Radio, le média valdoisien. C'est l'économie en direct et ce matin, un spécial Argenteuil en présence de Camille Jiquel, Jordi You, Charles-Henri Gilbert et Jean-Luc Mabou, chacun dans leur spécialité pour nous présenter le dynamisme d'Argenteuil. Jordi You, pourquoi avoir choisi Argenteuil pour développer votre activité?
En réalité, c'était tout d'abord par pur hasard.
Oui.
On était censé s'installer dans le 93, plus proche de l'aéroport, mais en visitant tous les locaux qui étaient...
L'aéroport qui est dans le 95.
C'est vrai.
Voici.
Sur les trois départements.
On le dit souvent.
C'est vrai. En fait, en visitant les locaux, ils étaient tous un peu, entre guillemets, pas en bonne santé.
Oui.
Nous, on devait accueillir une partie de clientèle pour faire nos formations. C'est pour ça qu'on s'est décalé un peu plus, donc un peu plus loin, entre guillemets, et donc Argenteuil. Et en visitant Argenteuil, on a trouvé notre local de rêve, un bâtiment neuf où on a décidé de s'installer. Par la suite, en fait, c'est une bonne surprise positive. On est proche de toutes les autoroutes, on est proche, tous les accès logistiques sont simplifiés. On est proche de Gennevilliers, où il y a le port, le terminal. Et on est proche de toutes les entreprises de logistique, comme pour expédier nos colis, donc c'est très bien.
Donc aucun regret d'avoir atterri à Argenteuil?
Pour le moment, aucun regret, très content.
Et donc, les atouts, c'est tous ceux que vous venez de nous citer, la proximité de l'ensemble des services dont vous avez besoin?
La proximité de l'ensemble des services, j'ai l'impression, en tant que quelqu'un qui vivait à Paris pendant très longtemps, j'ai l'impression que il y a un bon dynamisme économique. On a beaucoup d'entreprises qui s'installent. Nous, on est là depuis un an. Et depuis ces un an-là, on a autour de nous quatre nouveaux bâtiments qui se sont construits, dont le Fort Paddle, le grand centre de data qui s'appelle, l'entreprise s'appelle
Equinix.
Equinix. et d'autres entreprises derrière nous dont je connais pas le nom, mais on voit le dynamisme économique de la ville. Donc c'est aussi quelque chose de très positif pour nous. Je pense que c'est ça, à peu près.
Oui, très bien. Oui, oui, non, non, mais on comprend que vous êtes convaincu d'avoir atterri à Argenteuil.
Mais c'était par hasard.
Oui,
mais on est agréablement surpris.
Les choses, voilà. Ouais. Et la proximité avec Paris et le Grand Paris, pensez-vous qu'elle soit un levier stratégique pour votre développement également?
Clairement. Aujourd'hui, je dirais 40% de notre clientèle est basée sur Paris même. Donc, avec les accès les grands axes routiers, c'est vraiment très pratique pour nous de nous déplacer directement sur Paris. On est à 20-25 minutes
oui. Oui, c'est très, très
de transport
proche.
À travers Bézons.
Merci, cher Dillou. Charles-Henri Gilbert, vous nous avez dit que l'entreprise est implantée depuis plusieurs années. Quels avantages trouvez-vous au fait d'être sur Argenteuil?
Je pense que Jordi a raison, c'est-à-dire que notre métier de mainteneur demande une très grande réactivité. On intervient en quelques heures chez nos clients et donc il faut avoir des voies d'accès les plus simples possibles. Donc il y a un positionnement qui est extrêmement stratégique et c'est ce que j'ai découvert en reprenant ces sociétés. On part tout aussi vite sur Saint-Denis où on a un pôle d'entreprise très important, sur évidemment la Défense. Où là aussi on retrouve beaucoup d'entreprises et des restaurants inter-entreprises. Le cœur de Paris, on coupe à travers. Donc tous ces axes-là fait que cette accessibilité indispensable pour mes techniciens est un véritable atout. Et puis je rajoute ça au charme des voies sur berge, hein,
oui.
Qui est quand même assez incroyable d'avoir une vue sur la berge depuis son bureau et des possibilités d'espace qu'on n'aurait pas. En plus proche de Paris, nous on a quand même des espaces de stockage qui sont quand même importants on est au niveau des algorithmes, donc une vie de quartier en devenir. On voit que il y a des gros projets de rénovation d'anciens terrains ou de bâtiments avec Potel et Chabot qui s'est installé juste en face de chez nous. Donc c'est extrêmement positif pour notre implantation et l'avenir de nos entreprises sur Argenteuil.
Charles-Henri, quels sont vos clients?
Alors mes clients sont des gestionnaires de bureaux qui gèrent les restaurants inter-entreprises pour le compte de foncières. Des restaurateurs, des grands restaurateurs de collectivités type Elior, Compass, Sodexo et plein d'autres, Happy, CRNS, etc. Et puis en troisième partie, des monolocataires que nous avons qui sont propriétaires ou qui sont seuls sur leur propre bâtiment et qui ont mis à disposition de leurs salariés des restaurants, ce qu'on appelle des restaurants entreprises, des RE. Et donc là, j'ai en tête des grands noms comme la Société Générale, BPCE, Covea,
oui.
Chez qui nous ouvrons quasiment au quotidien.
Et votre activité, elle est concurrentielle ou pas trop?
Alors c'est un marché qui est très concurrentiel. Alors quand je disais qu'on est pure player de la maintenance, on est assez à part chez ISCO, dans le sens où on n'est pas un installateur de grande cuisine. Nous, notre ADN est de réparer. Quand on ne peut plus réparer, on remplace. Donc il y a un cercle qui est assez vertueux et qui nous pousse à réfléchir sur est-ce que la maintenance n'a pas un rôle majeur à apporter dans un monde, finalement, on est un monde de consommation.
Oui.
Et on a cette démarche RSE volontaire qui est appréciée de nos clients.
J'ai vu que vous étiez très impliqué au niveau RSE, on en parlera tout à l'heure. Encore une question, Charles-Henri, vous parliez de recrutement. Est-ce que vous pensez que le territoire permet de répondre efficacement à vos besoins en recrutement?
Alors, j'espère qu'on va arriver à pousser cette nouvelle génération à se poser des bonnes questions sur, mais finalement, où est-ce qu'on m'attend et est-ce qu'il n'y a pas une voie qui pourrait devenir une voie royale sur les métiers techniques que sont notamment la maintenance, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est un métier dans lequel je ne vois pas de chômage. C'est un métier qui est très bien payé parce que on a un manque de main-d'œuvre qualifiée. On a des jeunes qui s'y intéressent. Alors il y a deux métiers qui sont assez différents. Il y a le métier du show, où là on a affaire à des électromécaniciens, et puis le métier du froid où ce sont des frigoristes. Notre gros souci au sein d'ISCO, c'est de se dire mais comment on peut devenir attractif pour cette nouvelle génération ou des personnes en reconversion, et puis surtout après comment on peut les former au quotidien. La réglementation évolue et on est notamment sur le front de la réglementation européenne, et pour en faire finalement un métier très attractif. Je nourris beaucoup d'espoir sur ce point-là.
Quel est le parcours académique qu'il faut avoir pour rejoindre votre entreprise?
Alors on a bac pro, on a BTS, on a licence, il y a même des maîtrises, des personnes qui ont des maîtrises qui se disent finalement la partie terrain a son attractivité, et puis après des formations continues, des CFA, etc., qui oui. permettent d'avoir cette accessibilité assez rapide. Et puis après, moi je crois beaucoup au parrainage. Avec des plus anciens qui peuvent accompagner des jeunes recrues.
Donc vous êtes l'éventail est large si pour postuler.
L'éventail est très large. Ouais.
Si vous avez un appel à lancer, profitez-en. Si vous avez besoin en ce moment de recruter.
Je crois que je l'ai un peu dit. Hein. Oui. C'est franchement le métier de la maintenance. Alors il y a plusieurs types de maintenance, mais en tout cas ce métier de la maintenance de grande cuisine. Il a aussi une attractivité de par l'univers de la cuisine. Mmh. Moi, c'est un univers que j'affectionne particulièrement après avoir passé plus de 10 ans chez un grand restaurateur collectif. Cet univers est passionnant. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias. Il y a cette attractivité et c'est au service de la grande cuisine que nos entreprises s'inscrivent, et notamment ISCO, pour faire en sorte que ce métier... perdure dans une grande sérénité au quotidien.
Merci Charles-Henri. Jean-Luc Mabou, donc vous qui êtes implanté aussi depuis plusieurs années dans Argenteuil, comment vous percevez l'évolution du tissu économique local ces dernières années?
Déjà, on a des nouvelles arrivées parce qu'effectivement, il y a une vraie volonté au niveau de la mairie de faire venir des entreprises sur Argenteuil. Donc il y a un vrai dynamisme qui est lancé et qui va pouvoir perdurer les années à venir. C'est vrai qu'il y a une attractivité sur la localisation, les facilités d'accès, les voies sur berge, la 15 à proximité, la 86 aussi. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Il n'y a pas les problématiques qu'on peut rencontrer aussi dans d'autres zones. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça se développe. On a des belles entreprises qui arrivent. Et l'image de marque d'Argenteuil au niveau économique est en train d'évoluer très très positivement. Et c'est bien pour l'ensemble des habitants d'Argenteuil, parce que aussi ça devient un bassin d'emploi qui se développe. Oui. Donc tout ça est extrêmement positif.
C'est très positif.
Il faut parler aussi de la Fabrica, les efforts que fait la mairie et l'agglomération pour créer des écoles de métiers là où il y a des difficultés. De l'emploi, à rechercher des spécialités, des spécialistes. Et je pense que ça va se développer. Et c'est un besoin des industriels d'avoir du personnel qualifié, électromécanicien notamment. Parce qu'effectivement, il y a un problème dans la recherche de ce type d'emploi. Donc c'est un travail sur le développement, effectivement, de la venue de nouvelles entreprises, mais aussi des structures de formation qui vont permettre d'alimenter ces entreprises en personnel.
Merci Jean-Luc Mabou, donc président de l'ADPAVAB. Camille Jiquel, à travers tous ces témoignages, on comprend l'intérêt que les entreprises ont à être installées à Argenteuil. Comment justement attirer et fidéliser encore plus d'entreprises sur le territoire?
Déjà, merci beaucoup pour ces témoignages parce que c'est aussi grâce à ça qu'on s'engage tous les jours. Et que on reste engagé tous les jours pour notre ville, pour notre territoire. Donc merci beaucoup, parce que quand il y a des résultats, on est les plus heureux,
bien sûr,
avec Georges Motron et toute l'équipe municipale. Et donc c'est un équilibre qui est parfois à recréer, mais qui reste toujours fragile. Je parlais tout à l'heure de ville productive et ville à vivre. L'aménagement n'est pas une chose simple, le développement économique non plus, et la plateforme ville est quelque chose de vivant, qui évolue, qui rencontre aussi des difficultés qui sont intangibles. Hein. On a longtemps, parlons de formation, mais vivent les filières professionnelles et les filières technologiques parce que longtemps la filière générale était la voie royale, oui, entre guillemets, et aujourd'hui on se rend compte que parmi les métiers qui ne subissent pas de plein de fouet, pour citer un exemple, la menace de l'intelligence artificielle, bah ce sont bien les métiers manuels et les métiers de maintenance, les métiers techniques notamment. Et donc merci de rappeler aussi notre engagement sur la formation, parce qu'effectivement avec la ville d'Argenteuil, le territoire boucle nord de Seine, la région et des entreprises locales, et bien effectivement on s'est mobilisé pour la formation dans les métiers de l'usinage, avec la Fabrique A et la Factory Academy, et aujourd'hui c'est une vingtaine de jeunes qui sont éloignés de la formation, qui viennent tous les jours, et pour l'anecdote, lors de l'épisode neigeux, tout le monde était présent au poste à 8h. Voilà, ça recrée aussi une motivation, et en termes d'attractivité économique, de développement territorial, il n'y a pas de fatalisme. À un moment donné, on ne cède pas au fatalisme. Donc ça demande beaucoup de plans, beaucoup d'études, beaucoup de financements aussi que l'on va chercher. Je citais la région, mais citons aussi le département et la métropole du Grand Paris, qui sont des acteurs majeurs aujourd'hui du développement d'Argenteuil et du territoire boucle nord de Seine, que ce soit en investissant au sein des entreprises elles-mêmes, avec les plans PME, par exemple, avec la région, ou en investissant dans le cadre de vie, comme la métropole peut le faire sur de la biodiversité ou du développement de pistes cyclables, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important, parce que souvent, on parle de cadre de vie des habitants, mais parlons de cadre de vie des salariés, qui sont quand même, qui est quand même une oui, composante majeure
de la ville,
de l'attractivité d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà du fait de favoriser le redéveloppement de friches économiques, on travaille beaucoup au bien-être de nos entreprises et de nos entrepreneurs, en accompagnement aussi à leurs problématiques liées à la décarbonation, au transport, au logement. Rien que sur le quartier Porte Saint-Germain, Berge de Seine, où ISCO est implanté d'ailleurs, c'est pas moins de 2500 logements à horizon 2030-2035 qui vont être réalisés. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que des entreprises comme Potel et Chabot ou comme Yamaha Motor Europe s'installent à Argenteuil, bah ce sont aussi des salariés qui parfois font le pari de s'installer eux aussi à Argenteuil. Et puis derrière, c'est toute une vie de famille qui se crée, et le cycle vertueux continue.
Oui, c'est le plus grand succès qu'on peut obtenir, d'avoir des salariés qui ont leur outil de travail sur leur lieu de domicile.
Tout à fait.
C'est clair.
Alors, salariés et pas que, hein. On parlait de vos clients tout à l'heure qui viennent de Paris et d'ailleurs à Argenteuil. Je me tourne vers mes camarades sans arrêt, effectivement, parce que je cherche leur regard, parce que voilà, je sais, mais voilà, ça fait partie du lien. Et en plus, c'est une bonne équipe. On est venu en covoiturage ce matin, c'est très sympa. Voilà.
C'est juste que nos micros sont directionnels pour vraiment être en place.
Et donc les clients aussi qui viennent voir les entreprises, bah, c'est le bouche à oreille derrière, c'est l'image de la ville, c'est l'image de l'entreprise. Donc comme je disais, la ville est en quelque sorte, je vais en faire bondir certains, mais comme une entreprise, ben c'est pareil. Quand les clients viennent à l'entreprise, je vais continuer, Jacqueline, à regarder mes camarades, je ne peux pas m'en passer.
Bon, je me ferai disputer par technicien, c'est pas grave.
C'est important, c'est très important, cette image, et petit à petit les témoignages vont dans ce sens, ça évolue, ça change, et de plus en plus d'entreprises et d'habitants aussi font le pari de leur ville, et ça c'est important, la fierté qu'on a de notre ville.
Merci Camille. Alors moi j'avais eu l'opportunité d'accueillir Monsieur Georges Motron il y a 2 ans pour parler des berges de Seine, et j'avais vu la vidéo, la fameuse vidéo qui est magnifique vraiment. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Ça avance. Preuve en est très concrètement d'un passage piéton qui a été réalisé sur les berges de Seine, au droit du centre-ville, qui est prévu prochainement pour relier le centre-ville à travers tout le projet Canopée, donc le réaménagement de l'avenue Gabriel Péri, vers les berges de Seine et vers une péniche d'activité. D'ailleurs, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé pour justement aller chercher et la péniche et l'exploitant. Et donc aujourd'hui, il y a des rendez-vous qui vont être calés. Voilà, si je lance un appel, les personnes qui sont intéressées pour opérer une péniche à Argenteuil, contactez-nous, parce que il y a une forte demande, parce que on a envie de retrouver nos berges de Seine, de continuer à y flâner comme les impressionnistes pouvaient le faire à l'époque. Et donc aujourd'hui, avec le département notamment, on a des projets de recréer, qui sont bel et bien en route, pistes cyclables et voies piétonnes le long des berges de Seine. La Seine, on en a été coupé par entre guillemets la force des choses, l'industrialisation du début du siècle dernier, etc., qui s'est fortement développée le long des berges de Seine, avec la métallurgie, avec la chimie cosmétique, etc., parce que l'accès au fleuve était quand même bien pratique. L'accès au fleuve est toujours pratique. Cette voie a été développée. Et aujourd'hui, on se rend compte que la cohabitation justement des activités productives et des activités de loisirs est extrêmement importante, puisque nos entreprises ont besoin, éminemment besoin, de cette route départementale qui est structurante, hein, qui nous met à 20 minutes de la Défense, qui nous met vers la 15, la 1, la 86, Roissy et les grandes plateformes à quelques minutes. Donc elle est éminemment importante, mais elle peut cohabiter aujourd'hui avec des activités de loisirs et des activités de vie. Et donc c'est ce qu'on cherche à développer aujourd'hui à travers la reconquête des berges de Seine.
C'est tout l'enjeu.
Exactement.
Camille, vous avez évoqué des financements possibles à travers plus que possible, à travers le département, la région, la métropole du Grand Paris. Est-ce que, justement, cette métropole va nécessiter une autre stratégie dans le développement d'Argenteuil ?
Alors, la métropole est très présente depuis le début de l'histoire d'Argenteuil avec la métropole, avec le territoire boucle nord de Seine, hein, depuis 2016. La métropole a investi massivement sur la requalification des copropriétés dégradées avec leur code. C'est quand même des investissements massifs à hauteur de 80 millions d'euros sur plusieurs années. De la même manière, aujourd'hui, pas un seul projet de réaménagement de voirie, de piste cyclable ou de renaturation, de désimperméabilisation des sols, que ce soit en zone pavillonnaire ou habitée ou en zone productive d'activité économique, n'est pas financé par la métropole. La métropole est toujours à nos côtés.
Oui.
Et donc ça, c'est à souligner et c'est extrêmement important pour nous. Et puis après, en combinant effectivement les efforts de la métropole, du département et de la région, avec des investissements très ciblés de la région, notamment dans certaines entreprises, sur dossier, avec le guichet de la région notamment. Aujourd'hui, on les accompagne avec la direction du service économique de la ville d'Argenteuil pour justement mieux manager et avoir une lecture plus claire de toutes ces aides. Puisque il y en a beaucoup, mais parfois la profusion donne aussi l'impression qu'on n'y a pas forcément accès, ou qu'il y en a peu, ou que les dossiers sont difficiles à monter pour certaines entreprises.
Oui, je voulais dire, c'est peut-être là que votre élection va mettre de l'huile dans les rouages.
À un moment donné, là j'ai cité les acteurs qui sont extrêmement locaux et avec qui on a des partenariats très étroits et de longue date, et encore pour longtemps, je l'imagine. Après, on a un partenariat qui est aussi qui est dans un sens très fort sur des sujets de sécurité notamment, ou sur des sujets de développement économique, c'est l'État. Donc l'État nous accompagne au titre du renouvellement urbain avec l'ANRU par exemple, pour résorber l'habitat indigne et reconstituer une offre de logement adéquate et adaptée à aujourd'hui. Mais néanmoins, aujourd'hui, notamment sur les investissements auprès des entreprises et notamment tous les effets d'annonce divers et variés, comme le choc de simplification ou d'autres axes stratégiques. J'ai cité l'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a une lecture qui est assez difficile pour les chefs d'entreprise, qui est pas forcément très simple. Et peut-être que le vrai sujet, c'est vraiment de remettre toute une nation derrière ces chefs d'entreprise, derrière ces entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, c'est en grande partie eux qui font vivre les territoires.
Oui, ce sont eux, et depuis des décennies, on peut le dire. Merci Camille, merci pour tous ces éclairages. Allez, on a largement dépassé le temps de pause, donc on écoute, on fait un break et on écoute Angèle, oui ou non.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. T'es lié. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime compte plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'eau.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et aujourd'hui, nous avons notre spéciale Ville d'Argenteuil en compagnie de Camille Jiquel, adjointe au maire déléguée à l'urbanisme, l'aménagement et aux projets urbains. Conseillère également en métropolitaine déléguée à la métropole du Grand Paris, Jordi You, directeur UO France, Charles-Henri Gilbert, dirigeant de ISCO, et Jean-Luc Mabou, entreprise ABMC, président de l'ADPAVAB. Parlons un petit peu maintenant de développement économique et emploi. Donc Jordi You, votre secteur, on a compris que votre secteur évoluait très vite, hein, avec de nouvelles habitudes de consommation. Comment voyez-vous l'avenir du thé snacking et de l'agroalimentaire innovant en France?
En fait, le marché a été... les leaders du marché étaient des entreprises taïwanaises qui, depuis 30 ans, distribuent des bubble tea, comme on appelle, comme c'est connu aujourd'hui, traditionnels, donc des boissons à base de sirop de fruits aromatisés, avec des produits en général assez chimiques. Et aujourd'hui, en fait, le marché évolue. On va vers des boissons qui sont plus complexes. On va travailler les saveurs de différentes variétés de thé. On va utiliser des fruits et des produits frais. Et c'est là que nous, on intervient. On vient aider les entrepreneurs qui sont encore, entre guillemets, à l'ancienne. Et on va leur proposer des solutions innovantes, j'ai envie de dire, pour qu'ils restent adaptés à la demande du marché. On le voit très clairement par les anciennes chaînes de thé snacking qui existaient les 5-10 dernières années. Je pense à Chatime, je pense à Coco Time, je pense à Momenti, qui étaient des leaders qui avaient 30 à 50 enseignes en France. Et en 3 ans, ces enseignes-là, on ne les voit plus du tout. Il en reste peut-être entre 5 et 10 partout en France. La raison pour ça, c'est que le marché a évolué, les demandes des consommateurs ont évolué, et le problème de ces boîtes-là, elles n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec les commerces qui sont indépendants, qui ont beaucoup de mal, qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils ont beaucoup de mal à générer du chiffre d'affaires, du profit. Oui. Et en fait, c'est la seule raison, c'est qu'ils n'ont pas suivi en fait les tendances du marché. Nous, on vient résoudre un peu ce problème-là en apportant des ingrédients qui sont plus innovants, qui sont plus travaillés pour ces commerces-là.
C'est une problématique récurrente. Hein. Si on ne cherche pas à innover, on disparaît, c'est ça. C'est sûr. Vous pouvez nous donner un exemple de solution innovante que vous avez développée ?
C'est pas forcément sur des solutions intellectuelles, c'est surtout sur des innovations produits.
Oui.
En fait, à la base, dans un commerce de thé snacking, on a deux gammes de thé, un thé vert, un thé noir, très classique, non travaillé et low cost, on va dire. Et aujourd'hui, en fait, nous, par exemple, on propose 12 variétés différentes. Il faut savoir que le thé, en fait, il y a 6 variétés de thé. Et en fait, c'est surtout sur les saveurs du thé qu'on va travailler ces commerces-là. Donc aujourd'hui, le bubble tea, c'est quand on regarde les consommateurs de bubble tea, c'est surtout des jeunes, des collégiens, des lycéens, parce que la catégorie un peu plus âgée considère que c'est une boisson très sucrée, pas forcément saine. Nous, l'idée, c'est d'aller travailler cette catégorie de consommateurs-là en proposant des boissons qui sont moins sucrées, plus saines, et aussi avec une richesse culturelle où on va découvrir, comme le vin ou le café, les différentes saveurs, les différents arômes du thé.
Et vous pensez que le fait de multiplier les saveurs, c'est vraiment un atout pour le développement ?
C'est surtout un pari.
Parce que ça oblige aussi à une gestion extrêmement pointue des stocks et de...
C'est ça. Enfin, après, on reste sur la même catégorie de produits, donc c'est pas forcément compliqué sur la partie logistique. Mais c'est vrai que c'est un pari pour nous. Le pari, on l'a pris pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a un manque de transfert d'informations entre les tendances qui sont en Asie et les tendances qui sont en Europe. En Asie, ça fait très longtemps que les boissons qui sont actuellement en France ont disparu. En fait, nous on voit les évolutions du marché comme je dirais Internet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. En Asie et en Chine en particulier, on est déjà sur du 4.0, alors qu'en France, on serait en comparaison du 1.5, 2.0. Et c'est là où nous on a pris un pari de dire qu'on va prendre les tendances 4.0 qui sont en Asie et les apporter en Europe. Mais c'est un pari. C'est vrai que c'est un pari.
On comprend donc que votre secteur est concurrentiel quand même. Et là, vous pensez que c'est vraiment votre valeur ajoutée, votre stratégie ?
Il est très, très concurrentiel, c'est vrai. Des entreprises qui sont sur le marché depuis plus de 30 ans, c'est comme si on prenait un McDonald's comparé à un Master Poulet en ce moment, donc des chaînes de fast-food, des géants contre des petits comme nous. Nous, on est une nouvelle boîte, mais justement, on a cette en anglais on dit unique selling point, où on vient proposer quelque chose de totalement différent.
Et vous avez une vraie marge de progression, en plus.
On a une marge de progression actuellement. On a commencé l'année dernière, même si, vu que c'est la première année, notre chiffre n'était pas énorme, on fait plus de 100% de progression.
Bon, donc tout va bien. Vous travaillez déjà sur des nouveaux produits, des nouvelles implantations ?
Alors, durant l'année passée, on était surtout sur les commerces spécialisés et indépendants. Donc des commerces typiquement qui vendaient seulement du bubble tea. Aujourd'hui, on commence à travailler les commerces, les supermarchés spécialisés, donc les supermarchés asiatiques. Là, on va vendre en format retail, des produits pour que les consommateurs finaux achètent directement leurs produits et fassent les boissons chez eux. Demain, j'espère qu'on sera aussi dans des plus grands centres comme Carrefour ou des grands centres commerciaux.
Ouais. Le prix moyen d'une boisson ?
Aujourd'hui, le prix moyen d'une boisson, on est, je dirais, entre 6,50 et 8 euros.
Oui, donc il faut en vendre beaucoup.
Il faut en vendre beaucoup dans quel sens ?
Eh bien, pour faire de la marge, pour faire du non, profit.
C'est ça qui est intéressant. On est un peu comme le café, où on a une marge énorme. Mmh. On est à plus de 80% de marge sur ce genre de boisson. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de commerces en restauration qui sont en difficulté, qui ajoutent ce genre de boisson, parce que c'est un produit qui est facile à faire. Il n'y a pas de grosse barrière à l'entrée. On fait très facilement ce genre de boisson et la marge est énorme.
Très bien. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, bon vent hein, pour la suite. Merci, Jordi. Charles-Henri Gilbert, dans le secteur de la maintenance des grandes cuisines, hein, qui est vraiment votre fer de lance, il y a des grands enjeux. Dans quel ordre mettriez-vous la transition énergétique, les normes, le recrutement, la formation ?
Le premier enjeu, c'est un enjeu de recrutement. Je pense que j'en ai, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on rende notre métier et notre secteur d'activité attractif, conjointement avec la restauration, puisque voilà, on parle de maintenance de grandes cuisines. Le deuxième enjeu pour ISCO, et pour moi particulièrement, qui me semble important, c'est la durabilité. Dans la maintenance, nous avons la maintenance préventive, la maintenance palliative, la maintenance curative, et ensuite, quand on peut plus maintenir en bon état, on remplace le matériel. Et ce qu'on dit chez ISCO, c'est qu'il vaut mieux prévenir que réparer, entretenir que remplacer, et faire durer que gaspiller. Alors, ce sont des termes qui sont très sympathiques, mais au-delà de ça, on le voit dans notre quotidien, la passion de mes collaborateurs, de mes techniciens, et elle est vraiment là. C'est de se dire, quand on se retrouve avec une difficulté ou un challenge technique, c'est de se mettre en groupe projet et de se dire, tiens, comment on peut le résoudre, qu'il soit dans une cuisine au chaud ou dans des systèmes frigorifiques. C'est ce qui en fait, pour nous en tout cas, ce qui fait notre force. Donc ça, je pense que c'est le deuxième challenge. Après, on accompagne, on est au service des restaurateurs. Et je pense que la restauration a encore un très bon avenir. On entendait Jordi d'ailleurs sur le sujet, un très bon avenir devant elle. Et tant qu'il y a de l'avenir en matière de restauration, il y aura de l'avenir pour la maintenance de grande cuisine.
Vous êtes combien chez ISCO aujourd'hui ?
Alors, on est 24 salariés, puis on a un système aussi d'artisanat autour, une espèce de groupe d'artisans autour d'ISCO, ce qui fait qu'on opère avec à peu près 41 personnes.
La formation dont vous parliez, c'est une formation qui est interne, qui est vraiment au sein de ISCO ou elle se fait à travers d'autres établissements ?
Alors, il y a des établissements qui sont formateurs. Hein, j'ai en tête le CFI d'Orly, notamment, mais il y a également, moi je crois beaucoup à l'alternance. Le stage, c'est une première entrée en matière. L'alternance, c'est ce qui fonctionne le mieux avec le système de tutoriat dont on parlait tout à l'heure. Je pense que l'avenir de notre profession, elle est là, sur cette alternance. Encore une fois, j'espère que les instances nous permettront de toujours privilégier l'alternance dans nos PME. Pour moi, c'est une vocation que de former de futurs collaborateurs. Et quand les alternants sont bons, ils ont un travail tout trouvé, il n'y a pas de sujet derrière.
Merci Charles-Henri. Camille, on comprend que l'emploi et la formation sont des attentes fortes des habitants. Un commentaire sur ces deux témoignages ?
Effectivement, on a alors spécifiquement en Île-de-France, on a travaillé historiquement à des zones d'habitation, des zones de bureaux, des zones d'industrie, même si l'industrie on l'a remise un peu plus loin.
Un petit peu, oui.
Et puis des zones de loisirs. Quand je parlais tout à l'heure de ville productive et de vive à vivre, au milieu de tout ça, il y a évidemment la formation et l'accompagnement de nos jeunes. 40% de la population à Argenteuil a moins de 30 ans.
Ah oui, donc c'est un atout majeur, ça.
C'est un atout majeur. Si tant est que les jeunes trouvent aujourd'hui leur vocation à côté de chez eux, ou en tout cas trouvent aussi l'offre de formation, l'offre d'alternance, etc. Je remets ce que je disais tout à l'heure un petit peu en propos rapide et tronqué, mais la responsabilité de l'État et du gouvernement est extrêmement importante dans la vision que l'on donne à la nation, dans la vision que l'on donne aux entrepreneurs, mais aussi dans la vision que l'on donne aux jeunes. Et aujourd'hui, non, on ne va pas à l'école pour aller à l'école, on ne fait pas de stage pour faire un stage, on ne fait pas des études supérieures pour faire des études supérieures. On va à l'école pour apprendre un savoir-faire, un savoir-être, pour faire partie d'un tout. On trouve un stage pour trouver sa vocation, trouver sa place dans la société, et ensuite on l'approfondit à travers des études, etc., pour trouver aussi sa place dans une société. Parce que notre système total, notre système global en a besoin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme des retraites, on parle beaucoup de notre système santé, etc. On a besoin d'actifs qui font tourner le pays, qui font tourner nos entreprises, etc. Mais encore faut-il retrouver du plaisir dans ce travail. Où est le plaisir quand on s'engouffre massivement dans des filières où il n'y a aucun débouché? Il n'y en a pas. Ça devient complètement un sacerdoce complet. De la même manière, notre responsabilité sur le logement. Où est le plaisir et où est la perspective personnelle de vouloir s'insérer dans la vie active, fonder une famille, faire partie d'une société, et là je parle de la société au global, mais c'est aussi s'engager dans une ville, parce que derrière, c'est tout ce qui fait ville et ce qui fait le vivre ensemble qui se délite. Quand on ne peut pas trouver de logement, c'est compliqué de se projeter quand même. Donc ça c'est nos responsabilités conjointes. Je disais État, région, département, ville, territoire, etc. Métropole.
Éducation nationale.
L'éducation nationale, parlons-en. Enfin, je veux dire, quand vous avez une assemblée nationale qui est pour une toute petite partie qui a connu le travail en entreprise privée, de la même manière sur des enseignants. Peu aujourd'hui ont une expérience dans l'entreprise privée et connaissent ce que c'est que la vie de chef d'entreprise ou la vie dans l'entreprise et tous les enjeux. Donc c'est quand même difficile de donner le goût à des jeunes de vouloir aller vers ces entreprises sachant qu'on n'y a pas exercé. Donc où est-ce qu'on va? Dans la filière générale qu'on a mis sur un piédestal pendant des années, au détriment des filières techniques et professionnelles. Or, on le dit collectivement, et c'est là aujourd'hui où il y a des débouchés, où il y a le moins de risque de remplacement par les technologies, et où il y a les meilleurs salaires. Pourquoi ? Pour ensuite s'installer quelque part, trouver un logement, etc. Donc, revenons sur la ville d'Argenteuil. Nous, notre rôle, c'est d'avoir vraiment ce cadre de vie et ce parcours depuis la jeunesse, donc l'orientation, donc avec le forum Avenir par exemple, la vie associative, c'est pareil. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie professionnelle, personnelle, etc., c'est quand même difficile d'avoir une vie associative. Et la vie associative pour une ville, on a plus de 250 associations à Argenteuil, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait une des grandes richesses de la ville. C'est pour ça que sur notre ville, on travaille sur le volet logement, sur le volet sécurité qui est quand même, on a investi massivement les effectifs de police municipale et les équipements de police municipale, parce qu'aujourd'hui vivre dans une ville et travailler dans une ville et avoir des clients qui viennent chez nous pour reparler du sujet de ce matin en sécurité, c'est important. La santé, c'est également éminemment important sur le secteur Porte Saint-Germain Berge de Seine aujourd'hui, qui est totalement, c'est quand même 75 hectares qui sont totalement en remaniement. Bien sûr qu'on va penser et qu'on a pensé à réimplanter des services de santé, parce que c'est éminemment important autant pour la population de tous âges qui y vit que pour les salariés qui y viennent quotidiennement. Et donc voilà. C'est pour ça que la formation et l'orientation, la formation et l'emploi, c'est une des directions très actives et très importantes au sein de la ville d'Argenteuil. Et j'en remercie d'ailleurs chaleureusement les équipes qui y travaillent au quotidien, parce qu'aujourd'hui on accompagne autant les entreprises qui s'implantent à Argenteuil que les entreprises qui sont déjà implantées à Argenteuil, pour permettre d'ouvrir leurs portes, de répondre à leurs besoins en matière matière de recrutement, en matière d'orientation. On a une synthèse hein, sur ces besoins-là pour pouvoir nous aussi agir avec, en partenariat avec l'éducation nationale pour mieux orienter nos jeunes. Et puis sur la formation, bah, que ce soit avec le bureau des entreprises, le comité local école entreprise qui fonctionne très bien, notamment à Argenteuil, et puis l'ensemble des actions que l'on met en œuvre pour les jeunes, bah, on agit à toutes les étapes de l'orientation ou aussi de la réorientation. On a un partenariat avec France Travail auprès des demandeurs d'emploi où on a des cycles de formation. On les accompagne aussi vers l'entrepreneuriat avec l'Ouvre-Boîte, notre incubateur d'entreprise. Et puis on a un partenariat au niveau territorial avec Boucle Nord de Seine, avec la Société des Grands Projets, donc notamment sur les travaux du Grand Paris Express, donc la suite, qui permet aujourd'hui d'accompagner des demandeurs d'emploi éloignés de longue date de l'emploi vers des métiers de la sécurité, de l'ingénierie, du bâtiment, des chantiers, etc. Et aujourd'hui sur le Grand Paris Express, moi, j'ai pu échanger avec des personnes, et notamment des femmes, qui étaient éloignées de l'emploi et qui aujourd'hui ont trouvé leur vocation. Et notamment, j'ai deux souvenirs émus sur les tunneliers et qui aujourd'hui pilotent des tunneliers.
Ah oui, oui, c'est
voilà,
incroyable.
C'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est un exemple, mais aujourd'hui, c'est vraiment que chacun puisse trouver sa place, trouver sa voie et faire partie de ce qui fait société et de ce qui fait territoire.
Merci Camille. On comprend bien ce que vous disiez au début de l'émission, que une ville c'est comme une entreprise et qu'il faut avoir une vision globale hein, pour tout gérer.
Je m'attirais quelques. Mais oui, parce qu'à un moment donné, non, comme une entreprise, on a un budget.
Bien sûr.
Nous à Argenteuil, on emploie beaucoup d'agents, plus de 2000 agents. On a aussi un budget à l'échelle de la ville, et donc c'est quelque chose qui est pas simple à gérer. Ce sont des arbitrages, ce sont des investissements massifs sur Argenteuil. Sur le précédent mandat, c'était près de 50 millions par an d'investissement.
Donc
ça touche sur une ville qui fait 17 km² et 110 000 habitants, autant les voiries que les bâtiments publics, les groupes scolaires, les opérations de réaménagement, etc. C'est non-stop.
Camille, on prend quelques minutes de pause et cette fois c'est avec Christophe Maé et son titre Les gens.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et il y a des indignés, des indigents, des déjantés.
gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est toujours l'économie en direct et ce matin, nous avons notre spécial Argenteuil en compagnie de Camille Jiquel, Jordi You, Charles-Henri Gilbert et Jean-Luc Mabou. La RSE, l'impact local et les visions d'avenir sont importantes. Jordi You, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité et la traçabilité des produits. Quelle est votre démarche, vous, en matière de qualité et de responsabilité aujourd'hui?
Alors, en réalité, aujourd'hui, on n'a pas tellement de...
Aïe, 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 on va s'attirer des foudres.
On n'a pas tellement de traçabilité mise en place sur nos produits. Aujourd'hui, notre priorité principale, c'est vraiment de faire grandir la boîte.
Oui.
Mais bien sûr, ce sont des sujets qui est indispensable d'aborder par le futur. Du côté du consommateur final, là, je peux vous parler des tendances et des besoins que eux ont besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de besoin de traçabilité. Je veux des ingrédients qui sont propres. Mais de l'autre côté, on voit toute cette catégorie de population qui consomme quand même ces ingrédients qui, depuis 30 ans, existent et qui n'ont aucune traçabilité.
Oui, sans s'être posé de questions.
Aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut ces démarches-là. Mais le fait que le marché soit nourri par la demande... fait que là, en fait, les entreprises ne font pas beaucoup de démarches en réalité sur, en tout cas dans notre segment, sur ces sujets-là. Nous, dans un futur très proche, j'espère, une fois que l'entreprise sera plus stable, on abordera bien sûr ce genre de sujet.
Oui, d'autant que la RSE, c'est quand même à terme, c'est une obligation de l'Europe, donc il va falloir vous y mettre à un moment donné.
En tant que, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce sujet-là, mais en tant qu'importateur, bien sûr qu'on doit, quand on importe des produits, il faut absolument que ça respecte, surtout dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, il faut que ça respecte les normes européennes, qui sont assez strictes, très strictes.
Vous pourrez demander exemple à Charles-Henri.
Bien sûr. On est toujours preneur de bons conseils.
Parce que, donc, Charles-Henri, en préparant le dossier, j'ai découvert combien la RSE était importante pour vous. Hein. Vous avez décroché à nouveau la médaille d'argent EcoVadis en 2026, donc pour la deuxième année consécutive. Et vous dites que la durabilité n'est pas une option, c'est un engagement à long terme, de long terme, ce que vous nous avez déjà dit là ultérieurement. Donc, à quel moment vous avez éprouvé ce besoin d'être vraiment au top de la RSE, Charles-Henri?
Alors, je vais d'abord faire un petit aparté pour Jordi, parce que je suis très admiratif des personnes qui créent leur entreprise. Et c'est vrai qu'on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. La création d'entreprise, ça nécessite c'est une vocation, et ensuite ça nécessite un investissement quotidien très fort. Et je pense qu'on peut pas traiter tous les sujets en même temps. Le reprenariat, c'est un autre métier, mais c'est vrai qu'on a une entreprise qui est déjà plus installée. Et moi, j'ai en moi une dynamique RSE très forte. Alors sur la partie RSE, donc je l'ai vite mis en place et je suis allé chercher une certification EcoVadis dès la première année, renouvelée la deuxième année, mais avec deux axes de travail importants. Alors, le premier, on l'oublie souvent, le RSE, c'est d'abord du social. Et ça concerne les collaborateurs au sein de l'entreprise. Comment on les accompagne? comment on apporte un encadrement qui est à la hauteur de leur espérance, comment on essaye d'apporter un encadrement à la hauteur de leur espérance. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir dans ma société un mix de très jeunes et puis de seniors. Et comment on arrive à cohabiter avec cette population mixte au sein d'une entreprise et à la valoriser au quotidien. Ce côté senior en France, moi ça me touche particulièrement parce qu'aujourd'hui je fais partie des seniors et je trouve que on met les seniors de côté dans de plus en plus d'entreprises, alors qu'en fait on a quand on arrive à joindre la nouvelle génération aux seniors, c'est absolument merveilleux d'échanges, de proactivité, d'idées, de mise en œuvre, etc. Donc ce côté social, le volet social, il a vraiment son importance au Syndisco. Et puis après c'est un volet environnemental, c'est comment dans notre métier qui est technique, on utilise des équipements au quotidien. Comment finalement on fait en sorte de plutôt réparer que de remplacer. Donc ça nécessite un vrai mindset au niveau de mes techniciens. Et puis on est allé chercher, après c'est des idées. Alors EcoVadis, lorsqu'on cherche la certification EcoVadis, eh ben ça pousse à réfléchir. Et donc c'est pas le fait d'une personne dans l'entreprise, hein. c'est collégial. Donc moi j'ai impulsé cette dynamique-là, mais après toute l'entreprise a suivi derrière. On a réfléchi aussi avec certains partenaires fabricants. Et puis après on est allé encore plus loin avec Carbo. On a calculé notre bilan carbone pour pouvoir ensuite calculer notre bilan carbone chez nos clients et pouvoir apporter davantage de conseils en matière d'utilisation de tel type ou tel type d'équipement, tel type de structure au sein de leur restaurant d'entreprise, notamment en matière frigorifique, puisqu'il y a une législation européenne qui s'appelle F-Gas 3, qui est assez clair et strict en la matière, et où on voit que finalement les gaz qu'on utilise aujourd'hui ne seront pas les gaz de demain, par la force des choses, mais pas que, et qui ont un impact carbone épouvantable sur les bilans carbone aujourd'hui. Lorsqu'on parle par exemple d'un R449, vous allez être à peu près à plus d'une tonne de CO2, alors qu'un kilo de CO2, c'est un kilo de CO2.
Bien sûr.
Donc c'est là aussi en permanence on recherche auprès de nos clients en se disant voilà quels conseils on peut apporter, comment on peut faire évoluer les choses, et puis on a du temps devant nous.
C'est ça, pour vous c'est loin d'être une contrainte, c'est un vrai levier de sens et de performance.
Oui, et de réflexion commune. Oui. Entre celui qui fabrique, celui qui installe, celui qui maintient en bon état, et puis derrière les projets des différentes entreprises et différents entreprises de cuisine.
Pour l'avoir vécu dans une autre vie, je crois que c'est même un élément, enfin vous êtes en train de nous le dire, un élément de fédération au sein d'une entreprise.
Ben, c'est un projet, ça ne peut pas être porté par une seule personne au sein d'une entreprise, donc c'est forcément collégial à mon sens. Chacun doit y trouver un axe de travail ou un axe de réflexion, et cet ensemble fait que en général c'est une réussite, et on est très fier pour une petite PME, hein, on est une petite PME, on fait un petit 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et on arrive à être deux fois primé EcoVadis médaille d'argent, donc c'est une super récompense.
Félicitations pour cette médaille. Jean-Luc Mabou, vous, la RSE, comment l'envisagez-vous, ne serait-ce qu'au sein de votre entreprise ?
Alors, moi, je suis une petite entreprise, oui. Mais effectivement, c'est un des sujets qu'on traite. Même notre mandante est derrière pour nous pousser à travailler sur ces sujets, que ce soit le bilan carbone, qui est une nécessité, bien sûr, l'emploi, la qualité de l'emploi, la qualité du service qu'on peut proposer aussi à nos employés, parce qu'effectivement c'est un service aussi qu'on peut proposer à nos salariés. Et puis au niveau de la PAVAB, je dirais que nos membres représentent l'ensemble des parties prenantes économiques, et à travers ce réseau on va travailler sur effectivement la proximité, le lien entre les différentes entreprises, le lien avec les banques, le lien avec la commune, avec l'agglomération, avec les chambres consulaires aussi qui sont très très présentes sur le département, et prioriser le Made in 95.
Bien sûr.
Cher à Pierre Kuchny.
Oui.
Et ce travail de communauté d'intérêt va vraiment dans le sens de la RSE sur la notion de partie prenante en tout cas.
Et est-ce que vous le ressentez aussi à travers vos clients dans votre activité d'assurance?
De plus en plus, les clients doivent répondre à... Parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises, donc oui. C'est principalement... Ils ont un besoin de répondre, notamment dans les appels d'offres, à des critères de RSE assez prégnantes. Donc, c'est un développement qui se poursuit au fil des années. Mais c'est une exigence réelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, en général, il y a un prix qu'on remet sur l'entreprise la plus présente dans le domaine. Voilà. Et donc on méritante. Pousse aussi, voilà, la plus méritante, et on pousse dans, au niveau européen, et on pousse dans ce domaine, effectivement. Mais voilà, donc c'est. De toute façon, c'est un sujet que l'on est obligé de prendre aujourd'hui.
On ne peut plus
le laisser de côté. Je veux dire qu'il y a une entreprise d'un certain temps, j'allais dire de papa entre guillemets, elle est finie aujourd'hui. Effectivement, il faut prendre l'ensemble des points de la RSE dans la gestion de son entreprise, et c'est pour le gain d'entreprise, hein, puisque encore une fois, ceux qui sont lancés dans la RSE ont des gains de productivité très nets, parce qu'il y a le travail en commun. Effectivement, les salariés sont plus heureux,
plus
finalement,
motivés,
plus motivés, parce qu'ils ont une connaissance aussi meilleure de l'entreprise. Mmh. Ils vont pas dans une entreprise pour dire, ben, on va faire un job de 8h à 16h, et puis on s'en va.
Disait Camille.
Voilà, ils savent vraiment pourquoi ils travaillent et dans quel but ils travaillent. Et au-delà, il y a la qualité, effectivement, au travail qui s'aménage petit à petit. Et tout ça dans un cercle économique avec des parties prenantes qui sont de plus en plus à pousser dans ce sens-là.
Mm-hmm. Oui, c'est moins de taux d'absentéisme, enfin ça va.
Ça travaille sur les taux de rebut, je pense, dans l'industrie, ils sont relativement importants. À un moment donné, on s'en occupait pas. Aujourd'hui, on va travailler sur les taux de rebut, sur l'énergie, la dépense d'énergie, etc. Donc on va toujours travailler dans ces sens-là et ça améliore forcément la productivité.
On ne vous met pas du tout la pression, hein, Jordi.
J'écoute et je prends...
Ça améliore la productivité. C'est pas mal, ça. Hein. On parle de 12, 13, 14 points selon les statistiques.
Oui, il y a une vraie marge de manœuvre.
C'est important, quoi.
C'est important, bien sûr. Camille, est-ce que la ville d'Argenteuil souhaite développer certaines filières prioritaires, notamment autour de l'alimentaire, du commerce et des services? On a parlé d'industrie, mais y a-t-il cette vision aussi?
Oui, bien sûr. Mais je voulais rebondir sur la RSE parce que là, je la mets beaucoup moins en parallèle avec la responsabilité territoriale des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que la politique RSE, donc même soumise à réglementation, est quand même largement interne à chaque entreprise de la manière de la mener, puis suivant les secteurs d'activité, et puis suivant la taille des équipes, etc., etc. En revanche, effectivement, il y a, comme je parlais du socle commun qui est la ville, qui est là où on est implanté, dans la RSE s'inclut également, à mon sens, la responsabilité territoriale des entreprises, que ce soit, on a parlé beaucoup d'emploi et de formation, mais ça peut être aussi beaucoup plus large, ça peut être culturel, ça peut être environnemental aussi. Ça relève, par exemple, nous on travaille énormément sur la désimperméabilisation des sols et sur l'aspect paysager dans les parcs d'activité. C'est aussi un travail conjoint avec les entreprises de pouvoir aménager, réaménager, désimperméabiliser, etc. Leur site, et ça fait partie aussi du bien-être des entreprises, ça participe aussi à l'attractivité du site, etc. Donc en fait, en matière de responsabilité territoriale, alors c'est très vaste, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais nous, ça nous tient à cœur et il y a des exemples qui sont assez qu'on ne voit pas, et puis il y a d'autres exemples qu'on voit très bien. Je citerai notamment Yamaha Motor Europe qui a réalisé une fresque autour de son bâtiment à Argenteuil, qui aujourd'hui participe aussi à cette implication dans le territoire pour la ville et pour les habitants, ou encore Givaudan qui a participé à créer des fragrances pour la maison Claude Monet, la maison impressionniste. Et ça, on le sait moins, mais ça fait partie aussi des partenariats publics-privés, entre guillemets, entre une ville et puis ses entreprises. Et c'est un autre lien que celui du lien pur de l'aménagement et du développement économique. Ce qui nous amène sur votre question, Jacqueline, qui m'a totalement échappé du coup là, parce que je suis partie sur la responsabilité.
Les filières prioritaires.
Bien sûr, les filières prioritaires et essentielles, les filières prioritaires. Pour faire le lien assez rapidement sur le propos précédent, et je vais pas m'en écarter cette fois, promis. Pour nous, ce qui est assez important, c'est que des écosystèmes se développent. Donc, c'est-à-dire que ce matin, nous parlons agroalimentaire. C'est très important que des écosystèmes se développent en lien avec nos clubs d'entreprises, dont l'ADPAVA à Argenteuil, mais sur le territoire Boucle Nord de Seine, nous avons 12 clubs d'entreprises. On se voit souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs. Et donc, c'est important pour nous ces écosystèmes parce que ça permet de véritablement structurer une filière sur le territoire, sur l'agroalimentaire, entre les producteurs de matières premières, entre les transformateurs, entre la maintenance, tout l'approvisionnement, la logistique qui est extrêmement important. On parlait du port de Gennevilliers, on parlait de l'atout logistique, les prestataires logistiques sont importants aussi. La formation avec CY agroalimentaire, on a aussi d'autres écoles comme Ducasse qui sont sur le territoire, etc. Et donc, l'agroalimentaire est un des secteurs, effectivement, que nous développons.
Qui mérite d'être développé.
Voilà, parce qu'on a des entreprises historiques et de grande envergure. Hein, je pense notamment à Café Richard, au Moulin de Paris, etc. Et plein d'autres entreprises. Je peux malheureusement pas toutes les citer, mais ce sont des très, très belles sociétés. Et puis, c'est un secteur qui est somme toute attractif. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie d'un besoin qui est un besoin primaire, mais ça fait aussi partie d'innovations très sympas avec les bubble tea, par exemple. Donc, c'est extrêmement riche. Et à côté de ça, effectivement, on a d'autres filières qui sont où aujourd'hui on a des partenariats assez importants et que l'on développe toujours avec un ancrage historique. Notamment, je pense à l'aéronautique et à la défense qui est historiquement présent sur le territoire. Je pense à Dassault qui était présent jusqu'à il y a peu, mais qui reste d'ailleurs pour partie un peu encore présent, ou encore Safran. Parce qu'historiquement, on avait aussi ce développement aéronautique sur le territoire et qu'aujourd'hui, il est encore très très présent. Jusqu'à il y a peu, à des lanceurs aérospatiaux et là, des intérêts particuliers parce que pour ce secteur-là, qui a souvent aussi, qui s'est reculé de la métropole du Grand Paris, tente à revenir et spécifiquement sur le territoire Boucle Nord de Seine et Argenteuil, pardon. Parce qu'on a du foncier disponible et on a du foncier adapté.
Donc, oui, là, vous possédez une richesse qui, sur le territoire, est,
exactement.
Et n'a pas de prix.
Mais c'est aussi des entreprises qui peuvent aller sur aussi un autre asset, un autre type de bâtiment que l'on développe sur le territoire, qui est des bâtiments qui sont voués à se développer pour du textiaire.
Ah oui.
Et donc le textiaire, donc on connaît tous les bâtiments tertiaires, de bureaux, etc. Et donc là, on cherche à développer aussi des activités productives en étage. Alors là, on ne parle pas forcément de grandes industries, etc., mais au moins sur du prototypage et sur du laboratoire ou petite production. Okay, on a Core Waves à Clichy qui développe aujourd'hui des pompes cardiaques dans un bâtiment de la sorte. Et on a de nombreux laboratoires. Et là, ça m'emmène sur un autre secteur qui est la chimie cosmétique. Que longtemps a développé. On fait partie de la Cosmetic Valley. On est très impliqué dans le cluster de la Cosmetic Valley. On organise beaucoup d'événements, on rassemble beaucoup les entreprises de la cosmétique. Notamment, il y a le congrès Olfaction qui s'organise tous les deux ans. Il y a des visites de territoire autour de la chimie cosmétique qui sont également organisées parce qu'on a des leaders comme Givaudan, je le citais, mais aussi L'Oréal, qui sont implantés sur le territoire et sur Argenteuil spécifiquement, entre Yonkab, Biologique Recherche, qui sont notamment des entreprises importantes. Et puis après, on a un secteur aussi qui est particulièrement développé sur le territoire, c'est la mécatronique, pardon. qui est beaucoup développé. Et puis ensuite, je citerai des secteurs de la logistique, évidemment, puisque on en revient toujours au port de Gennevilliers. Mais la logistique dans une métropole comme la métropole du Grand Paris, c'est quand même un élément essentiel.
Bien sûr.
Essentiel. Et on a encore beaucoup à faire, notamment sur le dernier kilomètre. Il y a eu des développements sur la logistique fluviale. Il y a le dernier kilomètre. Il y a des forts enjeux de décarbonation sur la logistique. Et donc ça c'est un sujet. Et puis ensuite toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur de la revalorisation et de l'économie circulaire. Là aussi fort enjeu sur une métropole dense comme la métropole du Grand Paris.
Je pense même, Camille, qu'on pourrait faire une émission sur le sujet parce que c'est tellement vaste que ça mériterait de s'y arrêter.
Quand
si vous
voulez.
Êtes d'accord.
Merci infiniment, Camille.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Allez, c'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio avec aujourd'hui cette émission consacrée à la ville d'Argenteuil. Et on arrive au terme de l'émission. Alors, il nous reste très peu de temps, mais juste avant de nous quitter, peut-être un dernier tour de table et un mot de conclusion. Jean-Luc, on commence avec vous.
Oui, alors moi, je vais donner quelques dates pour les futurs événements de la PAVAB.
Oui.
Alors, le salon Effervescence, bien sûr.
19 mai.
Le 5 juin, nous accueillons au Moulin d'Orgemont, dans le cadre d'un débat, déjeuner-débat, un ancien ministre d'État. Le 9 juillet, à la Fabrica, nous organisons notre assemblée générale. Voilà, thème de l'industrie, toujours. Et pour les prochaines dates, on verra. Merci de m'avoir accueilli.
Merci à vous. Merci d'être venu, Jean-Luc. Jordi You, un mot avant de nous quitter.
Mais d'abord, merci pour votre accueil.
C'était
une très belle émission, autant pour apprendre que pour partager. Par rapport à You France, j'invite tous les entrepreneurs de France qui souhaiteraient ajouter ce type de boisson dans leur menu ou qui souhaiteraient ouvrir leur commerce à nous contacter. On est très ouvert.
Que faut-il faire pour vous contacter?
Eh bien, à travers notre site web qui arrive très bientôt, donc uhoofrance.com, ou par email, directement à travers Google. On nous retrouve assez facilement. Et puis, on entre dans la saison forte, vu que c'est une boisson qui est quand même assez saisonnière.
Oui.
On entre là au mois d'avril, mai, dans la saison forte. Donc
pas de vacances pour vous.
Pas de vacances pour nous. Beaucoup de potentiel pour ce segment-là.
C'est Merci. Ce qu'on vous souhaite, Jordi You. Merci infiniment. Charles-Henri, un mot de conclusion.
Jacqueline, déjà, merci beaucoup pour votre invitation et merci à Camille et son équipe également de nous avoir conviés. C'est toujours intéressant de pouvoir parler du monde de l'entreprise à l'intérieur de la ville. J'ai oublié de citer tout à l'heure le réseau Entreprendre, qui est un réseau français et même international, mais basé aussi dans le 95, qui m'a aidé dans cette reprise d'entreprise. Et puis Entrepreneurs et finances qui sont, j'aime bien à dire, mes coachs financiers. Toujours intéressant d'être accompagné dans la reprise de l'entreprise. Ça évite l'isolement du dirigeant. Encore une fois, à toute cette génération qui se pose des questions, regardez ces métiers techniques, ces métiers d'artisanat. Il y a tellement à faire et l'avenir est réjouissant à ce niveau-là. Et j'espère encore une fois que les instances de la France vont aider les jeunes à s'orienter vers ces métiers-là. Et comme le disait à juste titre Camille, il y a beaucoup à faire et on sera les premiers chez ISCO à pouvoir accueillir des stagiaires, des alternants. On en cherche régulièrement pour pouvoir ensuite leur mettre le pied à l'étrier.
Merci Charles-Henri Gilbert, merci pour ce message et merci d'avoir cité Réseau Entreprendre 95 parce que ils sont aussi partenaires de IDFM Radio et je reçois ses co-présidents la semaine prochaine. Donc merci de les avoir cités. Camille Jiquel, le mot de la fin est pour vous. Très vite, Camille.
Merci beaucoup. Merci Jacqueline, merci IDFM Radio. Merci à mes camarades, mes compagnons de route et d'émission ce matin parce que je le disais en préambule, mais c'est aussi mon mot, on ne fait rien seul. On a vraiment besoin de cet écosystème et de cette énergie. Et merci beaucoup parce qu'on sait pourquoi on s'engage et on a encore beaucoup à faire. Donc cette énergie, on va la garder. Donc merci.
Merci à vous. Et nous, on retiendra que la preuve que le dialogue entre collectivités, entrepreneurs, acteurs économiques reste essentiel pour construire un territoire attractif, durable et créateur d'emplois. Merci Nicolas pour la technique. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs, chers partenaires, de nous suivre avec fidélité. Cette émission vous a plu? N'hésitez pas à la partager avec votre entourage, sur vos réseaux. Retrouvez son podcast sur idfm98.fr. Les programmes continuent sur IDFM Radio, alors restez connectés pour ne rien manquer des émissions à suivre. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt pour une nouvelle émission d'Économie en direct.